Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serroc.
Donc vous êtes une montpelliéraine, pur jus.
Bah Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices et amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la laïcité. Laïcité, ce mot ne figure pas dans la loi de 1905 concernant la séparation des églises de l'État, son intitulé exact. Mais ce texte fondateur en a fixé les principes pour le fonctionnement de la République. Le 9 décembre dernier, les 120 ans de cette loi ont été marqués. On a vu alors apparaître à nouveau et souvent s'opposer des interprétations très différentes de la laïcité. C'était un nouvel épisode d'une bataille politique, historique et philosophique qui s'est développée ces dernières années. Ceci dans une grande confusion. Pour apporter à ce sujet souvent chaud l'éclairage dont chaque citoyen, chaque citoyenne a besoin et identifier les manipulations, j'ai invité Nicolas Cadenne, ancien rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité. Nous verrons ce dont il s'agit. Nicolas Cadenne, merci d'être venu au micro de Divergence.
Merci.
Vous êtes Nîmois, vous avez fait des études de droit à Nîmes, Montpellier et Lille. Vous avez été collaborateur de parlementaires socialistes, dont le député des Alpes de Haute-Provence, Jean-Louis Bianco. Et également, vous avez été membre du cabinet du ministre Guillaume Garot. En 2013, vous avez été nommé rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, fonction que vous avez occupée pendant plus de 8 ans, jusqu'en 2021, quand le gouvernement a alors mis fin à cet observatoire de la laïcité. Vous avez ensuite rejoint pendant 4 ans les services de l'État, comme directeur adjoint, puis par intérim de la direction départementale du travail et des solidarités de l'Hérault, et vous venez récemment de créer un cabinet qui propose des prestations de formation et de conseils, notamment, bien sûr, en matière de laïcité. Je précise que j'ai découvert votre nouvelle activité après avoir décidé de vous inviter. Alors, pour amorcer notre échange, Nicolas Cadenne, deux questions. La première, toute simple, quelles étaient la raison d'être, les missions confiées à l'Observatoire de la laïcité, donc qui était un organisme fondé officiellement, je dirais, une institution de la République.
Elles étaient assez nombreuses. Alors, cet observatoire a été créé au départ par un décret de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin en 2007, mais n'a pas été installé par Nicolas Sarkozy et donc a été installé par le président de la République.
Ah oui, l'affaire a été mise entre parenthèses tout à fait pendant toutes ces années. D'accord.
Ouais, donc, François Hollande l'a installé avec Jean-Marc Ayrault en 2013. C'est une instance qui est pluraliste, composée de parlementaires de tous bords, opposition et majorité en même nombre, Sénat et Assemblée, mais aussi composé de hauts fonctionnaires, c'est-à-dire les hauts fonctionnaires qui dirigent les ministères concernés par le sujet de la laïcité, 8 ministères, et puis également composé de ce qu'on appelle personnalités qualifiées, reconnues pour leurs travaux, et là vous retrouviez des membres du Conseil d'État, du Conseil supérieur de la magistrature, des élus locaux, des acteurs de terrain, des anthropologues, philosophes, sociologues, juristes. Cette instance, elle avait pour mission essentielle d'abord, bien sûr, d'informer le grand public sur ce qu'est la laïcité face à de nombreuses confusion face à une multitude d'interprétations erronées qui peuvent être claironnées ici ou là, mais aussi de lancer et de concevoir des plans nationaux de formation à la laïcité qui d'ailleurs pour beaucoup continuent d'être déployés un peu partout en France, que j'avais donc co-conçu à l'époque, et aussi avec un rôle d'éviter et de prévenir des contentieux en la matière en rappelant le droit en amont donc de contentieux potentiels entre, rappelant le droit entre administration et administrés ou autres qui n'étaient pas en accord sur la bonne application de la laïcité. Et puis aussi, on avait un rôle d'accompagnement des acteurs de terrain, des praticiens de la laïcité, que ce soit des enseignants, enseignantes, des acteurs des solidarités, des fonctionnaires quels qu'ils soient, mais en tout cas
des associations, si je suppose.
Des associations d'éducation populaire, autres associations, tous ceux qui sont en contact avec la diversité de la population et qui peuvent pratiquer la laïcité au quotidien. quotidien. On avait donc aussi pour mission de les accompagner, pour les aider à assurer une parfaite pratique de la laïcité au quotidien, et donc moi-même me déplacer au moins 3 jours par semaine, un peu partout en France. J'ai été dans tous les départements, y compris dans les Outre-mer, pour aider ces acteurs de terrain. Voilà les principales missions, mais
donc,
il y en a beaucoup
d'autres. Donc un travail effectif.
Ah oui, puis j'oubliais, principale mission aussi, c'est de tout simplement conseiller les gouvernements successifs sur les politiques publiques à mener en matière de laïcité ou sur les éventuelles réformes législatives ou réglementaires. Par exemple, on a fait abroger le délit de blasphème qui existait encore en Alsace-Moselle, par exemple.
Ah oui, c'est peu connu ça. Oui. Voilà. D'accord. Plus de blasphème
Alsace-Moselle, puisque c'est un régime dérogatoire, vous le savez. Merci. Mais on a quand même fait abroger le délit de blasphème là-bas.
Donc, deuxième question relative à cet observatoire. En 2021, dont Emmanuel Macron était alors président de la République, le gouvernement a supprimé l'observatoire de la laïcité. Quels étaient ces griefs tels que vous les avez...
Alors, il n'y avait aucun grief de fond, c'est
ouais.
ça le...
Ce qui est un peu pour insidieux, le moins sur... on peut le dire.
Ouais, c'est pour le moins surprenant d'ailleurs, non. La réalité, d'ailleurs, elle a été assumée publiquement, donc je peux le dire, c'est que donc, vous aviez à ce moment-là un gouvernement qui ne souhaitait plus d'observatoire de la laïcité, parce que ce gouvernement, et en particulier 3 ministres de l'époque, ne souhaitait plus d'observatoire de la laïcité, parce qu'il ne souhaitait plus d'instances pluralistes qui soient quelque part aux commandes des politiques public en matière de laïcité, parce qu'ils souhaitaient eux-mêmes, ces 3 ministres, avoir la main, si je puis dire, directement sur la laïcité. Ce qui nous posait problème, puisque à notre sens, la laïcité n'a pas à être idéologisée, c'est pas un instrument politicien, c'est évidemment un principe majeur de notre République qui doit s'appliquer à tout le monde, quelle que soit leur conviction, qui n'est pas de droite ou de gauche, c'est un principe de la République et il ne faut pas en faire un outil politique.
Donc ça veut dire, pour finir sur ce point-là, les fondements de la légitimité de l'Observatoire étaient ignorés ou mis de côté, quoi.
Exactement. Et puis même quand l'Observatoire a été supprimé, il a pourtant été annoncé dans le même temps que l'Observatoire avait fait un grand travail, notamment un
oui.
grand travail sur la formation.
J'ai retrouvé ça.
On continuerait à s'appuyer dessus, etc. Donc vraiment, aucun des travaux de l'Observatoire n'a été mis en cause. C'est ça le drame, quelque part. Hein. C'est vraiment
alors,
une volonté de
représentant politique. Son président Jean-Louis Bacaud et son rapporteur général, vous-même, n'ont pas été mis au pilori pour autant.
Alors en revanche, non, mais sauf qu'on a quand même été très clairement attaqué pendant des mois et des années en amont de cette suppression par des politiques, des responsables
ouais,
politiques qui étaient dans une logique de démanteler cet observatoire parce que c'était un garde-fou face à notamment ce qu'on appelle des lois d'émotion, alors que ces personnalités voulaient des lois nouvelles en matière de laïcité pour changer le droit de la laïcité et pour faire évoluer notre laïcité vers une nouvelle laïcité qui n'a plus rien à voir en réalité avec la loi de 1905 dont on a célébré les 120 ans ou avec l'histoire de la laïcité française en France. Donc c'était problématique et puisque finalement, ces personnalités ont quelque part obtenu gain de cause avec cette suppression de l'Observatoire. Et aujourd'hui, on voit d'ailleurs des propositions de loi, heureusement pour le moment pas définitivement adoptées, mais adoptées dans une des deux chambres, au Sénat en l'occurrence, qui sont contraires à la laïcité, qui ont pu être adoptées parce que justement, il n'y a plus ce garde-fou institutionnel.
Très bien. Alors, on reviendra sur ce sujet par d'autres voies. Donc, comme vous le savez, avant que nous parliez de laïcité, racontez-nous d'abord votre Montpellier. À votre tour d'apporter votre part au portrait de notre ville, brossé collectivement par mes invités, par petites touches successives, semaine après semaine. Alors, vous êtes moi, je l'ai dit, vous n'êtes pas le premier qui traverse le Vilourde pour répondre à mes questions, mais vous avez fait une partie de vos études à Montpellier, vous y avez travaillé, je l'ai évoqué aussi. Alors, quels sont le ou les lieux d'ici, soit c'est personnel, pour le coup, que vous appréciez particulièrement et que vous recommandez à vos amis?
Eh oui, j'ai passé pas mal d'années à Montpellier, donc soit effectivement à travers mes études ou à travers mon métier de DETS, effectivement, vous l'avez dit, enfin de directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités et adjoint, mais... Donc oui, je connais bien cette ville et elle est plus qu'appréciable, on le sait. Elle est très, très agréable à vivre. Alors, bien sûr, pendant mes études, je traînais essentiellement dans le centre-ville, le centre historique. C'était à l'université de droit. J'ai beaucoup apprécié, par exemple, aller au Rockstore, salle mythique des soirées montpelliéraines.
Oui, en effet.
Après, bien sûr, j'apprécie aussi, et encore aujourd'hui, le Jardin des Plantes, qui est un lieu de repos dans le tourbillon de la vie.
Tout près des facs, en plus.
Exactement, très bien situé, évidemment. Et puis... aussi, je pourrais parler quelque chose de plus récent, l'altropisme, qui est un tiers-lieu culturelle, événementielle très important désormais et qui, je pense, permet justement un croisement des regards et des parcours très riches, un brassage des cultures aussi dans notre vie, dans cette ville qui est très importante.
Très bien. Alors, donc, revenons à notre laïcité. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à vous engager au départ et à prolonger cet engagement, comme je l'ai indiqué, là, de défense et illustration de la laïcité?
Ouais, je crois que c'est quelque chose qui m'a toujours un peu habité. Il faut dire que dans mon terreau familial, c'était déjà très présent. Il y a plusieurs personne dans ma famille qui ont participé au débat laïque.
J'ai trouvé ça dans votre fiche Wikipédia, en effet.
Ou aux lois laïques. Effectivement, j'ai un grand-père, un arrière-grand-père, un arrière-grand-oncle qui ont été très investis dans ces débats et ont pu même avoir une vraie influence sur les lois en matière de laïcité. Et puis même, si on remonte à beaucoup plus loin, d'autres personnalités de la famille. Donc ça a toujours été inscrit dans cette histoire-là. Peut-être aussi parce que je suis issu d'une minorité confessionnelle, comme on dit, le protestantisme, voilà. Et donc évidemment, une minorité qui avait
qui a eu des soucis avec...
Qui a eu quelques soucis dans cette région.
Avec la cohabitation des religions.
Qui a eu quelques connaissances des persécutions, des discrimination et qui donc avait aspiré à cette laïcité, à cette égalité de traitement, quelles que soient les confessions ou les non-confessions. Donc tout ça m'a largement habité depuis toujours. C'est un sujet qui était très largement évoqué dans mon entourage et que j'essayais tout du moins de vivre au quotidien dans ma vie même personnelle ou associative, puisque j'ai très tôt été engagé dans le monde associatif, à savoir donc cet accueil de toutes et tous, ce travail avec des personnes issues de tout horizon et de toute conviction ou confession. Ça me paraissait très important. Et ensuite, j'ai eu une occasion qui s'est présentée, à savoir qu'en 2013, vous aviez le président de la République et le Premier ministre de l'époque, Jean-Marc Ayrault donc, et François Hollande, qui ont décidé de remettre en exergue cet observatoire de laïcité et qui l'a souhaité mettre en avant à la tête de cet observatoire un duo qui se connaissent bien et qui connaissent bien le sujet de la laïcité.
Ah, d'où le duo Bianco-Cadenne, d'accord.
Exactement. Et donc, d'accord. Ils avaient Jean-Louis Bianco qui était un politique respecté par tout le spectre politique puisque c'est une instance pluraliste, qui en plus était conseiller d'État et connaissait bien donc la matière du droit de la laïcité, et ils avaient moi-même qui donc connaissais bien le sujet de la laïcité. J'avais déjà écrit sur le sujet. Y compris en particulier j'avais eu des échanges avec Vincent Peillon qui était le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, qui était lui aussi assez investi sur cette question de la laïcité. Donc ils avaient là un duo qui leur allait bien parce qu'ils se connaissaient, ils l'avaient travaillé ensemble et tous deux connaissaient bien la matière.
D'accord.
Voilà un peu comment ça s'est
et
présenté.
Et après, bien sûr, ça s'est prolongé comme le parcours rapide sur votre itinéraire, je l'ai indiqué. Alors, commençons par les fondamentaux, si j'ose dire. Quelle est votre définition de la laïcité? Comment vous la présentez, tout simplement? Qu'est-ce qu'elle est?
La laïcité, c'est pas ma définition, c'est la définition telle qu'elle découle de l'histoire et qui s'inscrit dans notre droit. Alors, il y a différentes laïcités dans le monde, mais là, on parle bien de la laïcité française. Donc, cette définition, c'est, pour faire très simple, c'est de dire que la laïcité, c'est finalement le principe qui va permettre l'application en acte des valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité. La liberté de croire ou de ne pas croire, de plus croire, de recroire, enfin, qu'importe. L'égalité de toutes et tous, quelles que soient leurs convictions ou leurs confessions, devant la loi. Et là, ça va concourir à l'idéal républicain de fraternité en ce que ça garantit la citoyenneté commune et le respect de l'autre dans sa conviction ou dans sa croyance. C'est ça, la laïcité. C'est, pour résumer en droit plus strictement, ce serait en fait un État neutre, séparé des religions, neutre parce que séparé des religions, qui garantit à toutes et tous l'égalité de traitement, quelles que soient leurs convictions ou confessions, l'égalité donc devant la loi, qui leur assure la liberté de culte ou la liberté vis-à-vis de la religion, là encore, quelles que soient leurs convictions ou confessions.
Voilà, alors je ne reviens pas, parce que vous savez, sur les conditions assez rocambolesques, en tout cas, dans lesquelles la loi a été votée, parce qu'il y a une période de bataille politique antérieure. Alors, donc, pour essayer de compléter ce premier point, qu'est-ce qu'elle n'est pas, voilà.
La laïcité.
Qu'est-ce qu'il faut garder en tête pour, je dirais, ne pas se tromper, voire pour être trompé par les manipulations auxquelles nous assistons?
À partir du moment où vous voyez une utilisation de la laïcité pour diviser la population, pour stigmatiser, pour montrer du doigt, c'est que c'est pas la laïcité. C'est que c'est une mauvaise interprétation de la laïcité. La laïcité ne peut que rassembler. Elle a été conçue pourquoi ? Elle a été conçue dans un pays, on en a dit un mot, qui a subi des très fortes turbulences, une vraie guerre civile, des vraies oppositions au sein de sa société civile du fait de confessions et de convictions différentes, qui a subi donc des persécutions de minorités, des discriminations légalisées à l'encontre de minorités. Et donc, elle a été conçue pour justement faire en sorte de continuer à pouvoir avancer ensemble malgré nos différences de croyances ou de convictions, de pouvoir cheminer ensemble au-delà de nos appartenances
d'apaisement.
Propres. Donc vraiment pour construire une société commune qui dépasse les clivages convictionnels ou confessionnels, pour donc créer, garantir, assurer la paix civile et en même temps aspirer à une société moderne de liberté individuelle renouvelée.
Alors, donc vous venez de montrer ce qu'elle est, mais qu'est-ce qu'ils vont garder en tête, bon, vous l'avez dit, ce distinguo. Alors, donc une des faussetés ou des interprétations erronées, vous en avez dénombré 95 dans votre livre « En finir avec les idées fausses sur la laïcité », publié en 2020 aux éditions de l'Atelier et réédité notamment en 2025. Et on va voir, on a commencé à le faire, quelques-unes de ces idées fausses que nous allons essayer d'éliminer. Alors, dans la pratique d'une religion, qu'est-ce que la loi interdit et à qui ? Qu'est-ce qui te voilà je pense qu'il y a une confusion sur des formes visibles dans l'espace public d'une conviction religieuse.
Donc, la laïcité, c'est d'abord un principe de liberté. De base, elle va assurer la liberté de culte et la liberté donc de religion pour toutes et tous. Tous ceux qui veulent exprimer et vivre une pratique religieuse le peuvent. Dans le même sens, tous ceux qui veulent contester une croyance, le peuvent aussi. Donc c'est la liberté de religion et la liberté vis-à-vis de la religion. Tout le monde peut croire en ce qu'il veut, tout le monde peut contester une croyance, c'est pareil, en revanche, dans le respect mutuel. Chacun doit se respecter, c'est-à-dire qu'on ne peut pas menacer quelqu'un parce qu'il pratique ou parce qu'il ne pratique pas, on ne peut pas appeler à la haine contre un groupe de personnes parce que de telle religion ou de non-religieux, ça c'est pas possible.
Alors, pour prendre deux exemples, à l'époque, c'était plutôt les processions catholiques qui étaient la forme la plus visible, voire la plus spectaculaire d'une
croyance religieuse. À la mode,
Mais si, par exemple, des musulmans, faute d'avoir une mosquée de taille suffisante, prient dans la rue, ça ne pose pas de problème.
Alors, maintenant, il n'y a plus trop de prières de rue parce qu'effectivement, il y a suffisamment de lieux de culte, mais il y a eu effectivement pas mal, à un temps donné, de prières de rue, ce qu'on appelait les prières de rue. C'est possible si vous le déclarez préalablement en préfecture et que donc les autorités publiques sont informées
Pour encadrer les choses. Public, quoi,
voilà, pour réserver un espace public où ça ne dérangera pas la circulation ou autre, par exemple, pour garantir cette possibilité-là. C'est pas de droit, mais c'est encadré, c'est possible. Comme toute, si vous voulez, comme toute manifestation extérieure dans l'espace public, il faut des déclarations préalables et que cela soit contrôlé par les pouvoirs de police du maire et du préfet. Typiquement, quand vous avez une manifestation politique, syndicale, c'est pareil, vous faites une déclaration, vous avez un itinéraire qui peut être décidé avec les autorités municipales ou préfectorales, et puis voilà. Mais donc, tout cela, c'est pareil pour la religion. Si vous avez des manifestations extérieures ou des processions, vous en avez dit un mot, c'est possible. Il faut simplement le déclarer préalablement et que ce soit encadré par les pouvoirs de police du maire ou du préfet. Alors les processions, pour certaines, comme elles sont très anciennes, très traditionnelles, toujours aux mêmes dates, parfois elles n'ont même plus besoin de faire leur déclaration préalable.
Et alors qu'est-ce qui est interdit au bout du compte ? Alors,
ça, alors, ce qui est
vous
interdit...
vous rappelez cet espace de liberté, d'expression, éventuellement de débat sur les religions. Qu'est-ce qui n'est pas possible
ce qui est interdit,
à ce jour, au terme à la fois de la loi de 1905 et de la législation actuelle ?
Ce qui est interdit, c'est tout ce qui trouble objectivement l'ordre public. Donc tout ce qui porte atteinte à la sécurité, à la santé, aux questions sanitaires, aux questions de sûreté dans l'espace public. Ce qui trouble l'ordre public ne sera pas possible. Et aussi, ce qui est imposé à autrui contre son gré ne sera pas possible. Donc, ce qui est possible, c'est si ça ne trouble pas l'ordre public, si ça ne s'impose pas à autrui contre son gré, s'il n'y a pas de menace, de contrainte sur autrui. Ça, c'est la règle générale. Ensuite, vous avez des règles spécifiques.
Alors, cette règle générale, comment est-elle appliquée, interprétée ? Comment les tribunaux disent bon, il y a eu atteinte à l'ordre public, il n'y a pas eu atteinte à l'ordre public.
Si voilà. Effectivement on constate qu'il y a une vraie menace contre la sécurité qu'on n'est pas en capacité de prévenir en déployant des forces de l'ordre, il y aura trouble à l'ordre public, par exemple. Après, il y a des cas spécifiques.
Ça peut arriver, donc.
Bien sûr, ça peut arriver. Après, il y a des cas spécifiques. Par exemple, quand vous êtes agent public ou que vous exercez une mission de service public. Lorsque vous exercez une mission de service public, vous ne vous représentez pas vous-même, vous représentez l'administration publique dans son ensemble, neutre et impartial, qui doit traiter tout le monde de la même manière et qui ne doit pas marquer d'adhésion à une quelconque confession ou non-confession ou philosophie. Donc, vous êtes neutre. Donc, quand vous représentez un service public, que vous êtes agent public ou que vous exercez un service public, là, vous devez être neutre, bien sûr, dans votre comportement, mais aussi dans votre apparence. Donc là, sur le coup, quand vous êtes agent public, vous ne portez pas de signes religieux dans l'exercice de vos fonctions. Ça, c'est un cas spécifique. C'est pour marquer la neutralité de l'administration publique parce qu'elle est séparée des cultes pour garantir le fait qu'elle traite tout le monde de la même manière, qu'elle ne marque pas d'adhésion à une conviction quelle qu'elle soit.
Et alors, cette obligation, pour le coup, qui est faite aux fonctionnaires, est-ce qu'elle vaut pour les enseignants ?
Oui, puisque les enseignants représentent l'État, sont fonctionnaires. Elle vaut pour tous ceux qui sont dans l'enseignement public, bien entendu. Ils se doivent de représenter l'administration publique dans son ensemble et donc de marquer aucune adhésion philosophique, confessionnelle ou même politique, puisque d'ailleurs, cette neutralité est beaucoup plus large, elle n'est pas que confessionnelle. Ensuite, il y a justement, vous parlez d'enseignants, une règle spécifique aussi qui va s'appliquer aux élèves des écoles, collèges et lycées public, c'est-à-dire qui va leur imposer la discrétion. Non pas la neutralité, mais on va leur demander
la
discrétion.
Donc c'est la loi
de 2004. 15 mars 2004.
Jospin, c'est ça. Hein.
Un peu après. Un peu. 15 mars 2004, là, depuis cette loi, en effet, on leur demande la discrétion, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent porter, ces élèves, que des signes discrets, pas de signes ostensibles, c'est-à-dire des signes visibles de tous, immédiatement reconnaissables. Donc pas, par exemple, pour être concret, pas de possibilité de porter de kippa, de voile, de foulard, de turban sikh, de grande croix, mais possibilité de porter petit pendentif.
Oui, voilà, ça, voilà. La petite croix qu'on peut porter.
Main de Fatma, voilà. Petite croix, ce genre de choses, ça c'est possible. Donc, pourquoi ? Parce qu'il a été considéré qu'à cet âge où on est mineur, sauf exception, dans une phase d'apprentissage des bases du savoir, dans une période où ces élèves doivent eux-mêmes développer leur esprit critique et leurs propres convictions et confessions, éventuelles d'ailleurs idées religieuses, s'ils le souhaitent plus tard, mais en tout cas doivent développer leur esprit critique et leurs propres idées en se fondant sur les savoirs qui leur sont délivrés, ils doivent, pour ce faire, être, si vous voulez, préservés d'influence excessive. Donc on leur demande d'être discrets sur ce type d'appartenance, mais pas neutre, discret. C'est pour ça que cette loi ne peut pas s'appliquer, n'a jamais été pensée pour s'appliquer à des personnes adultes, majeures ou étudiants, par exemple, puisque là, bien sûr, on a affaire à des adultes pleinement citoyens qui disposent de tous leurs droits et qui, bien sûr, ont acquis déjà les bases du savoir pour savoir ce qu'ils veulent et qui n'ont pas besoin dans leur vie de tous les jours d'être préservés, ils sont assez grands hein, pour se débrouiller, de telle ou telle influence. C'est très différent.
Certains veulent... Alors cette loi elle a suscité un grand débat hein, oui. Dans l'ensemble, je dirais, dans l'ensemble du spectre politique, y compris à gauche. Il y a quand même des gens qui veulent la durcir, en tout cas, qui en font là aussi une interprétation qu'on peut considérer comme extensive. Oui. Voilà,
Bah oui, ben ce serait une erreur, puisque typiquement, il y en a effectivement qui veulent étendre l'interdiction du port de signes ostensibles aux parents accompagnateurs de sortie scolaire. Ça n'a pas de sens, puisque je viens de vous l'expliquer. Hein, cette loi n'a été justifiée que parce qu'on a affaire à des publics mineurs en phase d'apprentissage des bases du savoir. Ce n'est pas du tout le cas des parents accompagnateurs des sorties scolaires. Ce sont des adultes. Ils savent très bien ce en quoi ils veulent croire ou pas croire. Enfin bref. Et ils sont là, ils ne sont pas non plus dans l'exercice d'un service public. Ils ne représentent pas l'école. Ils sont là juste pour aider ponctuellement, bénévolement. Une sortie scolaire dans les matières de sécurité et d'encadrement, c'est-à-dire monter dans un bus, traverser une rue par exemple. En aucune manière, ces parents accompagnateurs peuvent commenter un tableau ou une statue dans un musée visité. Et ça relève de la mission du service public de l'éducation nationale, ça relève des enseignants qui, eux, sont neutres. Donc, ces parents accompagnateurs, comme ils ne sont pas dans l'exercice d'une mission de service public et qu'ils ne sont pas non plus des élèves en phase d'apprentissage, évidemment, eux, ils peuvent porter des signes religieux, dès lors, bien entendu, qu'ils ne font pas de pression sur les enfants qu'ils accompagnent. Évidemment, en revanche, entre parents ou auprès des enfants, ils ne peuvent pas faire de pression, ils doivent rester parfaitement là-dessus impartial, c'est évident. Mais en revanche, s'ils portent un signe, ils ont le droit.
D'accord. Alors, il faut qu'on avance là. Le temps file. Alors, pour certains, la laïcité est une valeur, D'autres, les mêmes, voudraient qu'elle figure dans la devise de la République à côté de liberté, égalité, fraternité. Qu'en pensez-vous ?
Bah, c'est une mauvaise compréhension de la laïcité. D'ailleurs, les artisans de la laïcité n'ont jamais songé à l'ajouter au triptyque républicain. C'est pas pour rien. C'est parce qu'ils l'ont pas du tout conçu comme une valeur. C'est pas une valeur parce que la valeur, c'est subjectif. Ça peut être apprécié dans des degrés très différents. L'égalité, la liberté, on le sait, ça peut être apprécié très différemment. Jusqu'à quel niveau la liberté, jusqu'à quel niveau l'égalité, on le sait. C'est pas ça, la laïcité. La laïcité, on peut pas subjectivement apprécier. C'est un principe juridique qui emporte des valeurs. C'est très différent. C'est-à-dire que c'est un principe qui est un outil pour mettre en œuvre très pratiquement, de manière concrète, les valeurs de la République. Donc, pour traduire concrètement la liberté, en l'occurrence la liberté de conscience, la liberté de croire, de ne pas croire, la liberté de critiquer une religion, la liberté de promouvoir une religion, etc. C'est aussi un principe qui va, comme je disais tout à l'heure, mettre en pratique l'égalité. De fait, ça garantit l'égalité entre toutes et tous, quelle que soit leur conviction ou confession, on est égaux devant la loi, on est égaux devant le service public. Et c'est un principe, là encore, qui concourt à la citoyenneté commune et donc à la fraternité.
Alors, bon, on va peut-être s'acheminer vers la fin, mais quand même une question qui me paraît importante. On l'a vu, le débat sur la laïcité s'est exacerbé. Les instrumentalisations sur la laïcité sont développées. Comment analysez-vous ce phénomène ?
Ben, on est dans une période de crise protéiforme, crise sociale, crise économique, crise écologique, crise parfois sanitaire, crise d'identité dans la mondialisation. Et dans les périodes de crise, il y a des replis, on le sait. Il y a aussi d'ailleurs un recours parfois accentué à la religion comme valeur refuge. Il y a dans ce pays beaucoup de phénomènes de sécularisation, donc beaucoup de gens qui se sont dégagés de la religion. Donc il y a une polarisation entre ceux qui se sont dégagés de la religion et ceux qui ont besoin de revenir à la religion, comme valeur refuge notamment. Donc ça crée une première tension. Et puis, il y a aussi une peur de l'autre hein, qui se renforce dans ces périodes de crise, une peur de celui qui nous est a priori différent, qu'on pense différent. Il y a aussi un manque de mixité sociale dans notre pays qui fait que les populations ne vivent plus vraiment mélangées, elles ne vivent plus vraiment ensemble et donc elles se connaissent peu et donc elles ont d'autant plus peur de l'autre quand elles le connaissent peu. Et en plus, vous ajoutez à cela les tensions internationales, les tensions au Proche-Orient, les attentats islamistes qui créent de la confusion, qui vont créer des mélanges entre djihadistes, islamistes et islam tout court, ce qui est aberrant évidemment, mais malheureusement ces confusions existent et sont parfois même instrumentalisées et largement alimentées par certains politiques, il faut bien le dire. Et donc tout cela crée des tensions supplémentaires et des volontés d'utiliser la laïcité non pas comme un outil de construction de la maison commune, ce que est la laïcité, mais plutôt comme un outil, comme un bouclier, comme une arme contre des minorités qui seraient vues comme négative ou comme dangereuse par une majorité du moment, alors même que cela repose évidemment sur des clichés, sur des a priori et sur cette absence désormais de mixité sociale suffisante dans notre et socioculturelle suffisante dans notre pays. Donc il faut au contraire renforcer le sentiment d'appartenance à la nation pour toutes et tous. Il faut donc lutter pour ça contre toutes les discriminations pour éviter la tentation du repli communautaire. Il faut mélanger les publics, en particulier dans les écoles, pour qu'il n'y ait pas de repli communautaire là encore, qu'il n'y ait pas de ségrégation, et qu'il y ait donc une chute des atteintes à la laïcité, ce qu'on appelle les atteintes à la laïcité, une chute des tensions sur ces questions-là. Il faut recréer du commun.
Alors, on arrive à la toute fin. Bon, bien sûr, on aurait pu prolonger longuement cet échange. Bon, vous avez fait allusion notamment aux musulmans. Alors, en novembre, vous avez co-signé avec Jean-Louis Bianco une tribune dans Libération intitulée après le 13 novembre, la peur s'est muée en défiance à l'égard des musulmans. Quelle était l'alerte que vous avez voulu ainsi lancer ?
Ben, effectivement, c'est que la laïcité, je l'ai dit, c'est un outil au service du commun, de la construction du commun, et c'est pas un outil de division de la population. Et qu'aujourd'hui, on a trop de politiques qui... couverts de courage, en réalité sont d'une profonde lâcheté, c'est-à-dire qu'ils vont se servir de la laïcité pour essayer d'étendre toujours plus loin les interdictions, pour transformer ce très beau principe en outil de contrôle moral, en outil de contrôle des citoyens et des minorités qui leur déplaisent.
Et alimenter l'hostilité aux étrangers aussi.
Alimenter bien sûr aussi l'hostilité aux étrangers, alimenter à l'hostilité à l'égard de tous ceux qui ne correspondent pas à ce qu'ils, eux, considèrent comme ne pouvant relever que de cette identité française qu'ils mythifient et qu'ils définissent d'une manière très étriquée. Et donc, c'était une alerte pour rappeler que non, la laïcité, elle suppose une action sociale. Elle suppose, de, je le disais tout à l'heure, d'offrir des réponses laïques partout sur le territoire, des offres publiques laïques partout sur le territoire pour justement créer du commun, par exemple, dans des quartiers ségrégés. Si vous ne créez pas de, d'offres périscolaires laïques, publiques, et bien vous allez avoir des replis communautaires vers la religion, c'est évident. Donc si on veut vraiment lutter contre ces replis communautaires, il faut créer de l'offre publique de qualité, des services publics, il faut soutenir l'action collective commune, il faut recréer du lien plutôt que de diviser, que là, évidemment, on est dans une période où ceux qui prétendent lutter contre le repli communautaire en réalité ne font que l'alimenter en divisant toujours plus les Françaises et les Français entre elles et eux et en créant de la suspicion généralisée vis-à-vis des uns et des autres. Donc soyons vigilants. Aujourd'hui, on entend les mêmes qui disaient hier qu'il faut s'opposer à la France judéo-protestante. Et bien aujourd'hui, ils vont dire qu'il faut s'opposer aux musulmans et privilégier la France supposée judéo-chrétienne. Tout ça n'a pas de sens. C'est des formules qui ne sont là que pour diviser. On est toutes et tous, avant toute chose, des citoyennes et des citoyens françaises et français. Et c'est grâce à la laïcité qu'on peut dépasser nos appartenances propres pour construire notre cheminement commun.
Eh bien, ça sera votre dernier mot, Nicolas Cadenne. Merci,
merci
de votre contribution auprès des auditeurs et des auditrices. Et peut-être une prochaine fois.
Avec plaisir.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Sarov.
Donc vous êtes une montpelliéraine, pur jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.